La discussion générale est close. La parole est à Monsieur Éric Woerth, ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique.
Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président, quelques mots sur cette discussion générale. Je voudrais d'abord remercier le rapporteur général pour ses propos. Merci pour votre présentation qui est, je pense, fidèle au texte et qui reflète les choix que nous avons faits et les choix financiers que nous avons faits. Pour répondre à quelques-unes de vos interrogations sur l'impôt sur les sociétés, d'abord, on n'a pas modifié nos prévisions par rapport à cet été parce qu'il n'y a pas de raison, vous le savez, de les modifier. Les acomptes de juin et de septembre ont été plutôt en ligne et rien ne permet de dire que la crise des subprimes de cet automne aura des effets sur les recettes. On ne peut pas aujourd'hui véritablement le prévoir. Donc il n'y a pas de raison particulière de dégrader la prévision. Je l'ai dit en commission, je l'ai dit ici, ça reste une prévision. Nous verrons bien, mais il n'y a pas d'élément pour nous dire le contraire par rapport à ce que nous avions prévu. Sur la TVA, il y a deux facteurs. C'est vrai que la TVA est en diminution. Alors diminution par rapport aux prévisions de 2007, mais une augmentation de recettes par rapport à 2006. Je voulais juste le dire, je l'ai dit en commission, mais je voulais juste le redire. Probablement, il y a en début d'année beaucoup de dégrèvements, beaucoup de remboursements, beaucoup de restitutions, et certainement, probablement parce que en janvier ou février, l'administration avait un peu de retard sur l'année d'avant et donc a concentré, pour des raisons qui sont des raisons alors purement de gestion administrative, pas mal de restitutions en début d'année. On est en train de regarder cela de près autant que possible. On a fait d'ailleurs cette demande depuis déjà quelques temps. Et puis il y a une consommation aussi en valeur qui est plus faible que prévu, parce que l'inflation prévue dans le budget 2007 sera en réalité une inflation a priori un peu inférieure et un peu plus faible. Donc la consommation, le volume de consommation a été fondé sur une valeur, sur une inflation, sur des prix plus importants. Donc il doit y avoir aussi un effet prix. Sur l'impact des crédits d'impôt sur l'impôt sur le revenu, moi je suis bien d'accord avec vous sur le fait qu'il faille être vigilant là-dessus. On a eu aussi cette discussion hier. Il y a un certain nombre de points qui ont amené à une augmentation supplémentaire de ces crédits d'impôt, donc à une entrée inférieure d'impôt sur le revenu qu'on a pu cibler à quelques raisons, notamment dû au crédit d'impôt au personnel employé chez les particuliers, mais ça n'explique pas tout, et donc il y a d'autres explications certainement plus diffuses que nous devrons avoir au fur et à mesure du temps et dès que l'année sera terminée. Monsieur le Président de la Commission des Finances, vous avez exprimé, vous n'êtes pas le seul, d'autres ont exprimé également des craintes quant à la croissance 2008. Moi, je ne crois pas qu'il faille aujourd'hui revoir, il n'y a pas de raison particulière de revoir en cette fin d'année la croissance prévisible du PIB en 2008. La fourchette entre 2 et 2,5 sera, je l'espère, tenue. Elle est dans la droite ligne du bon chiffre du troisième trimestre et donc compatible ce chiffre avec cet objectif. Alors il faut rester prudent, je suis aussi d'accord, je serai le dernier à dire qu'il ne faut pas être prudent pour tout vous dire, il faut rester prudent sur l'euro, il faut rester prudent sur le pétrole, mais on s'aperçoit bien que le pétrole est assez lui aussi soumis à des fluctuations importantes. Il a tendu vers des sommets il y a quelques semaines, il est redescendu de plus de près de 10 dollars les dernières semaines. Donc nous verrons, je voulais juste vous rappeler que les prévisions de la loi de finances ont été fondées sur un niveau, un cours du pétrole aux alentours de 73 euros, au-dessus de ce qu'on appelle en général le consensus des économistes qui devait être à 65 ou 67. Donc on avait été au-dessus de ce consensus à cette époque-là. Et puis bien un moment, vous arrêtez la construction de votre loi de finances. Hein. Vous ne pouvez pas la faire varier tous les trois jours. Avec quand même, je pense, une incidence du prix du pétrole, en tout cas sur un budget. Je ne dis pas que ce soit vrai sur si c'est une série de budgets, mais une incidence sur un budget qui reste relativement faible, on pourra s'en réexpliquer si vous le voulez. Les indicateurs sont également bons Dans les entreprises, je l'ai dit tout à l'heure aussi, les indicateurs de morale, alors les indicateurs de morale des ménages, les derniers sont moyens, mais les indicateurs de morale des chefs d'entreprise sont bons, ça doit varier d'un mois à l'autre, et cela dans la plupart des secteurs, dans l'industrie, comme dans les services ou dans le bâtiment. Donc les chefs d'entreprise sont confiants sur l'activité, et je voudrais vous dire qu'on est plutôt heureux de partager avec eux cette vision, qui comme toutes les visions, peut être aussi volatile, bien évidemment. Sur les règles d'affectation des surplus de recettes et sur l'incidence de TEPA en 2007, monsieur le rapporteur général, vous avez aussi évoqué cela, et nous en discuterons au moment de votre amendement. Nous n'avons pas modifié la règle d'affectation des surplus de recettes fiscales. C'est pas un oubli de la part du gouvernement. Le coût 2007 de TEPA, il est plus que couvert, non pas par des recettes fiscales, des surplus de recettes fiscales, mais il est plus que couvert par la diminution du prélèvement sur recettes de l'Union européenne, ou si vous le voulez, par le dividende, le pré-dividende 2007 de EDF. Donc il n'y a pas une affectation des surplus de recettes fiscales au coût de et au surcoût, enfin au coût nouveau, puisqu'il n'était pas prévu dans la loi par principe de la LFI 2007, de TEPA. Alors cela dit, moi je comprends aussi bien évidemment la logique de l'amendement déposé par le rapporteur général, qui correspond à un souci de transparence que je partage aussi, et nous verrons lorsque nous aborderons ce sujet. Mais je voulais quand même le dire, le surcoût de TEPA, il est compensé non pas par un surplus de recettes fiscales, mais par le dividende d'EDF, ou si vous le préférez, par une minoration du prélèvement sur recettes pour le budget européen. En ce qui concerne EDF, l'État agit dans le domaine d'EDF en gestionnaire avisé, d'ailleurs, de ses participations. L'État a cédé pas tout à fait 3% d'une partie de ses actifs dans EDF. Je vous ferai juste remarquer que les actifs d'EDF, sur ces quelques dernières années, ont considérablement progressé. L'action est passée de aux alentours de 32 ou 35, je ne sais plus, euros, l'action, à plus de 80 euros. Donc le patrimoine de l'État s'est évidemment beaucoup amélioré sur ce sujet-là. Et cette opération, ce dispositif, vous l'avez parfaitement bien compris, je n'ai pas à le réexpliquer, c'est de mettre en face d'un patrimoine mobilier, un patrimoine immobilier qui est un patrimoine universitaire. Alors, je sais que ça peut poser un certain nombre de questions dans le domaine du traitement comptable et dans le traitement budgétaire, je ne vais pas dire ça à l'un des brillants auteurs de la loi organique, mais nous allons voir avec Valérie Pécresse et puis avec Christine Lagarde, qui sont à deux titres intéressés, Madame Lagarde comme ministre de l'économie et Valérie Pécresse comme ministre des universités, à mettre en œuvre d'une manière opérationnelle le dispositif, évidemment dans le cadre du respect des dispositions de la LOLF. Sur les mesures pouvoir d'achat annoncées par le président de la République jeudi dernier et sur l'impact budgétaire de ces mesures, je pense qu'aujourd'hui il n'y a pas de raison non plus de modifier le budget, parce que dans leur immense majorité, ces mesures n'ont pas de coût pour l'État. C'est d'ailleurs comme ça qu'elles ont été construites. Elles s'adressent d'une certaine façon à la responsabilité des entreprises. C'est bien de cela dont il s'agit. C'est vrai pour le déblocage des fonds de participation, qui étaient de toute façon défiscalisés à terme, ou sur le mode d'indexation, pour prendre un autre sujet, des loyers. Donc une grande partie des mesures n'ont pas d'impact fiscaux, ou d'impact, en tout cas d'impact direct sur le budget. Sur ce qui peut avoir un impact direct sur le budget, je pense particulièrement à l'augmentation de pouvoir d'achat des fonctionnaires. Moi, c'est un débat que j'ai eu avec les syndicats de la fonction publique depuis maintenant déjà plusieurs mois. Nous avons sur ce sujet bien progressé quand c'était lundi matin dernier. Il y a encore beaucoup de travail à faire dans une approche un peu différente des choses. Alors on peut ne pas être d'accord sur le plan politique, mais enfin on a tous envie que les fonctionnaires gagnent correctement leur vie. Il faut juste que ce soit compatible avec les finances publiques, et en même temps la dégradation des finances publiques ne doivent pas être un seul alibi pour ne pas faire progresser le pouvoir d'achat des fonctionnaires. Donc dans cette équation là il faut trouver quelque chose qui fasse que l'ensemble de la fonction publique puisse être garantie sur les prix. Je pense qu'on ne peut pas se dire qu'aujourd'hui on travaille pour l'État et qu'en même temps on va perdre de l'argent à travailler pour l'État. Ce serait en soi, me semble-t-il, un peu provocateur. Et en même temps, de se dire qu'il y a une partie de gens qui gagnent beaucoup plus que les prix et qu'il y a une partie, malheureusement, qui gagne beaucoup moins. Donc il faut trouver un mécanisme qui garantisse le pouvoir d'achat et en même temps asseoir sur d'autres mécanismes, et là-dessus c'est vrai qu'il n'y a pas d'accord avec les organisations syndicales, d'autres mécanismes qui garantissent l'augmentation du pouvoir d'achat. Je pense à la responsabilité individuelle, je pense à la rémunération au mérite, je pense au travailler plus, je pense aux mesures du président de la République sur les comptes épargne-temps et sur les heures supplémentaires et sur la majoration des heures supplémentaires. Alors ça peut avoir un effet, c'est vrai, sur le budget 2008, ça n'a pas d'effet sur le, par principe sur la loi de finances rectificative. Ça peut avoir un effet sur la LFI 2008. À quel niveau, pour l'instant, nous n'en savons rien. Les choses ne sont pas arrêtées, elles ne sont pas négociées, elles ne sont pas discutées avec les organisations syndicales. Je fais simplement remarquer qu'il y a dans la masse salariale de l'État 130 ou 140 millions d'euros au titre, un titre supplémentaire sur les heures justement supplémentaires. Alors c'est vrai en volume et pas en prix. Je peux immédiatement vous le concéder, mais que cela existe déjà. Et puis il y a une réserve sur le titre 2 de 0,5%, c'est-à-dire à peu près 600 millions d'euros qui doit nous permettre de faire face dans le périmètre budgétaire d'aujourd'hui. Monsieur de Courson, le dépôt tardif du dispositif éco-pastille, c'est parce que le Grenelle de l'environnement a lui-même été tardif par rapport au collectif budgétaire. On n'y pourra rien. Nous avons comme ça beaucoup de sujets à évoquer. Et je pense que le Grenelle de l'environnement a été un beau succès. Alors, je pense qu'il était... nous pouvions attendre. Nous pouvions attendre sur l'éco-pastille. On pouvait se dire, on le fera... plus tard, au moment où M. Borloo présentera un texte sur de loi tirant les conséquences du Grenelle de l'environnement. Donc on a pensé que c'était au contraire, plutôt d'ailleurs à venir dans un texte fiscal, dans un texte financier, que c'était mieux et plus transparent, et qu'en même temps, il fallait que ça puisse très rapidement entrer et se mettre en œuvre. Donc c'est ce qu'on va faire avec un barème équilibré. J'ai tenté d'y veiller, on verra si dans la réalité des choses ça se passe comme ça, mais nous avons été très vigilants pour que ça s'équilibre entre évidemment bonus et puis malus. Sur le SAD, je voudrais vous rassurer sur la soulte versée par la SNCF. Comme hier, depuis hier, nous n'avons pas progressé, ce n'est pas le chiffre. Nous l'aurons, je l'espère en tout cas, bientôt. Ce sera intégralement, je le dis, ce sera intégralement affecté au désendettement, bien sûr, de l'État. Sur la session EDF, j'ai évoqué à propos du discours du président de la commission des finances, donc je ne vais pas y revenir. Ce sera simplement, évidemment, le traitement sera conforme à la logique, je dirais, patrimoniale du CAS, participation financière de l'État. Sur l'impôt sur les sociétés, oui, il y a évidemment une interrogation, je l'ai déjà dit aussi. Le degré d'exposition au subprime, ce que nous disent les spécialistes, les gens qui connaissent le secteur bancaire et le secteur assurantiel, nous disent quand même que le sujet est très variable en fonction des organismes, que le degré d'exposition est plutôt moins fort que dans d'autres pays, et que tout état de cause, j'ose l'espérer, il pourrait être tout à fait marginal. Donc j'ai pas d'inquiétude particulière, j'ai la même inquiétude que pour toute prévision, donc nous verrons, mais j'ai pas d'inquiétude particulière là-dessus. Sur le FIPSA, moi je suis d'accord avec vous, le problème n'est évidemment pas résolu, je me suis à plusieurs reprises avancé, donc mis en situation de risque, en considérant qu'il faudra bien régler la situation avant le premier semestre 2008, et l'intégration à l'assurance maladie, en tout cas l'adossement à l'assurance maladie, dans le respect de l'identité, bien sûr, de la gouvernance, comme on dit aujourd'hui, agricole du sujet, est évidemment pour moi aussi très importante. C'est bien une option. Si on nous prouve à un moment donné ou à un autre qu'il y a d'autres options, qu'on pourrait faire mieux autrement, qu'on pourrait régler la situation différemment, bah, évidemment, on prendra la meilleure façon de le faire. Mais je voudrais quand même respecter les professions agricoles et toujours bien évidemment lier à la fois le FIPSA et les professions agricoles. Je remercie monsieur le député Chartier pour votre plaidoyer. vifs, encourageants et brillants contre la fraude, parce que c'est un sujet évidemment particulièrement important, sur lesquels nous allons investir de l'énergie, j'espère aussi de la compétence et bien évidemment dans un esprit de novation, pour essayer de faire en sorte qu'en France, on soit moins naïf que l'État, et tous les organismes représentant l'État, notre collectivité publique soit moins naïve que les voyous fiscaux ou les voyous sociaux, c'est-à-dire ceux qui s'organisent pour voler la sécurité sociale ou pour voler l'État, parce que quand on vole l'État ou la sécurité sociale, on vole en général des plus faibles que soi. Donc, bien évidemment, c'est un problème de morale républicaine. Et,